Il m'incombe de lancer cette troisième et dernière table ronde, voilà, des œuvres pour politiser les publics. Il y a des petits changements au programme, donc Emmanuel de Marcimota a dû annuler sa venue en raison voilà, du fait que maintenant il double les représentations de son spectacle actuel. J'ai un énorme trou de mémoire, en plus je suis allée le voir, l'adaptation de Camus. État de siège, merci beaucoup. Donc, Jean-Baptiste Fou, comédien, dramaturge, metteur en scène, a très bravement accepté lundi de relever le défi et de remplacer Emmanuel de Marcimota. On le remercie énormément. Et Olivier Neveu, malheureusement, est souffrant, donc il a dû annuler sa venue. Donc c'est une table réduite, mais néanmoins de grande qualité. Je passe la parole à Stéphanie Kuhner, donc qui est maîtresse de conférences en sciences de l'information et de la communication à l'Université Lyon de Lumière. Je ne suis pas sûre de dire les mots dans le bon sens. Et voilà, je te laisse maintenant présenter cette table. Merci à tous.
Merci beaucoup Caroline pour cette introduction. Merci à la BPI et à Maxime Servul de nous avoir sollicité pour cette table ronde. Alors, dans cette table ronde, on va questionner notamment l'intention derrière les œuvres. Parce qu'il y a des œuvres qui sont pensées, conçues, dans l'espoir de politiser les publics ou de les faire réagir à une question politique. Et puis il y a des œuvres qui ont un effet, qui font réagir les publics, qui contribuent à les politiser, alors que ce n'était pas forcément la vocation première de l'œuvre. Donc on va naviguer à travers le temps et des exemples. Le fil rouge, ce sera les œuvres qui politisent sur la question de la place des femmes et des représentations de l'altérité et du fait colonial. Alors, pour commencer, je voudrais vous montrer les œuvres de trois artistes. Récemment, une collaboratrice, on se questionnait sur les universitaires blancs qui, comme moi, s'intéressent au travail d'artistes queer, d'artistes qui travaillent dans une perspective antiraciste, etc. Et je me trouvais mal à l'aise d'avoir un discours d'expertise sur des artistes, puisque l'universitaire est dans une position de surplomb, finalement, par rapport à l'artiste dont il parle. Et elle me dit, en fait, peut-être qu'un des rôles de l'universitaire, c'est d'attirer le regard vers quelque chose. Du coup, je ne vais pas spécialement commenter, faire l'exégèse des trois artistes dont je vais vous montrer le travail, mais l'idée, c'est d'attirer le regard vers trois artistes que j'aimerais qu'on regarde plus, et qui n'ont sans doute pas besoin de moi, mais voilà, j'avais envie de montrer leur travail, parce qu'ils contribuent à politiser les publics. Alors, le premier exemple, c'est celui de Sadie Lune. Alors, merci. Sadie Lune, qui est une artiste américaine, qui est basée aujourd'hui à Berlin. Ceci est une photographie issue d'une performance de rue. Alors, Sadie, c'est une artiste qui a aujourd'hui 38 ans, qui se décrit comme absurdiste et qui est une artiste multimédia. Alors, ce qu'elle fait, ça, c'est de la photographie, elle fait aussi des vidéos, et là, c'est une performance de rue. Et tout son travail attire l'attention sur le sexisme, la lutte des prostituées. Et là, on a une performance de rue où elle est adossée à une publicité de la marque Dockers. C'est en 2010 dans une rue de San Francisco. Et c'est une campagne publicitaire d'une marque de vêtements pour hommes, dont le slogan c'est « Welcome to manhood »,« Bienvenue dans le royaume de la masculinité » et « Wear the pants ». C'est à vous de porter la culotte, messieurs. Et... Sadie a eu cette réflexion intéressante de se dire, ben en fait, mon corps va être un sous-texte à des choses qu'on voit dans la rue, dans l'espace public, et mon corps va servir à sous-titrer, à exhiber les dimensions sexistes de ces objets médiatiques qu'on voit dans l'espace public. Donc là, elle porte une chaussure connotée très féminine au pied droit, une chaussure connotée masculine au pied gauche. De sa braguette sort un phallus surdimensionné et dangereux, qui est un serpent vivant, qui est un serpent qui vit avec elle. Elle porte une fausse moustache et une chemise ouverte dévoilant son anatomie féminine, en tout cas le sein qui est connoté au féminin. Et puis elle lit un livre qui est un de ses ouvrages de développement personnel dont les Américains et les Français aujourd'hui sont friands aussi. C'est « What could be in a man's mind »,« À quoi pensent réellement les hommes ?» Alors, comme je ne voulais pas faire l'exégèse de l'œuvre des artistes, je leur ai posé des questions et je leur ai demandé de commenter leurs œuvres eux-mêmes et elles-mêmes. Alors, j'ai la citation en anglais, mais je vous mets la traduction en français. Donc là, Sadie Lune explique son œuvre. Elle dit « As-tu vu le manifesto sur le site internet de Dockers ?» Alors, le manifesto, c'était une campagne publicitaire de la marque qui disait « Bon, il est temps que les hommes réclament la masculinité. Avec le mouvement des femmes, l'homme a été féminisé. Il faut qu'il réaffirme ses valeurs viriles. » Et ce n'était pas du tout second degré. Hein, ce n'était pas une campagne publicitaire second degré. Donc elle commente. Elle dit « As-tu vu le manifesto sur le site internet de Dockers ? Mon projet était une réponse féministe et queer à cette vision romantisée des valeurs patriarcales et de la perfection inatteignable du genre masculin que recouvre le terme manhood, masculinité. En montrant les petits dérapages et défauts que nous expérimentons tous et toutes dans la représentation du genre et aussi afin de montrer que le royaume de la masculinité peut être investi par toutes sortes de personnes. Il y a beaucoup de misogynie inhérente et de conformisme corporatiste dans les messages et les valeurs de cette campagne publicitaire. J'ai donc voulu juxtaposer à cela une alternative relevant d'expériences vues et vécues, tout en exposant ces messages misogynes et conformistes sous-jacents pour les soumettre à l'analyse. » Donc cette œuvre, elle est pensée, cette œuvre qui est une performance de rue, elle est vraiment pensée pour politiser le public. Et c'est une performance en deux temps, c'est une œuvre en deux temps, puisque d'abord il y a la performance de rue de l'artiste, qui est restée dans cette posture sur un temps prolongé, et puis les photographies de Jenny Kroftowka, qui a pris les photographies et qui a ensuite diffusé ce qui a prolongé la visibilité de l'œuvre. Un deuxième exemple d'artiste dont les œuvres ont un message politique à faire passer et qui le revendique comme tel, c'est une peintre qui vit à Paris, qui s'appelle Pauline Ngwala, et qui est une peintre portraitiste autodidacte. En 2013, Pauline a rencontré la photographe et activiste pour les droits LGBTQI, Zanele Mioli, qui est une photographe et activiste sud-africaine, qui est venue à Paris en 2013. Et Zanele Mioli lui propose de rendre hommage à des victimes de crimes homophobes sud-africaines à travers sa peinture. Alors, voici déjà un portrait de Zanele Mioli réalisé par Pauline Ngwala. Et ce projet va donner lieu à une série de portraits intitulée S.A. Mort. Ils sont exposés dans des festivals tels que Elle résiste en 2013 et Massi Madi Bruxelles en 2014 et Afropunk à Paris en 2015. Fin 2016, Pauline était en résidence artistique à Jour et Nuit Culture. Et elle y a réalisé une série toujours en cours qu'elle nomme A Queer Vision, composée de figures emblématiques et d'anonymes de la communauté LGBTQI qui inspire l'artiste. Donc d'abord, je voudrais vous montrer trois portraits qui sont... alors, des portraits... Au départ, ce sont des portraits photographiques de personnes lesbiennes ou transgenres, de personnes LGBT, d'Afrique du Sud, qui font partie de la communauté de Zanele Mioli, qui est photographe, qui en a fait une œuvre de portraits photographiques de personnes sud-africaines qui revendiquent leur homosexualité. Certaines personnes sont mortes de crimes homophobes depuis. Enfin, après que Zanele ait pris leurs photos. Pauline Ngwala a ensuite fait des portraits peints à partir de ces photographies. Donc je vais vous en montrer trois. Donc ici, c'est le portrait de Buzi, une personne qui est décédée en 2007. Alors, j'ai pas voulu mettre le avant-après, j'ai pas voulu montrer les photos-portraits de Zanele Mioli en parallèle des portraits peints par Pauline, puisque justement, c'est pas une logique d'avant-après. Et on peut voir les photographies de Zanele Mioli en ligne, hein, il suffit de chercher sur Internet. Ensuite, c'est un autre portrait de Boule qui est décédé en 2006. Alors, j'aimerais pouvoir les montrer chacune plus longtemps. Et un dernier portrait, alors il y en a d'autres dans la série. Et ces portraits, ils ont pour vocation de perpétuer une mémoire et d'attirer l'attention sur un fait qui est ces crimes homophobes. Qui sont perpétrés contre des personnes LGBT en Afrique du Sud. Dans sa série A Queer Vision, Pauline fait les portraits de personnes LGBT qui ont marqué en fait l'histoire de la communauté. Donc ici, c'est le portrait de James Baldwin, un écrivain américain qui a vécu en France, qui était noir, homosexuel, et qui est aujourd'hui une icône, en fait, et dont Pauline a fait le portrait. Et je vais passer maintenant un extrait d'un commentaire de Pauline Ngwala sur son œuvre. Elle dit ceci, « Les portraits que je réalise s'adressent à tout le monde. Un des objectifs est la prise de conscience, de montrer jusqu'où va l'homophobie et comment certains, certaines se battent, comme Zanelle et Muoli, pour dénoncer ces viols correctifs qui vont souvent jusqu'au meurtre. » Peut-être qu'ici, on se dit que c'est loin de l'Afrique du Sud. Alors quand elle dit « ici », c'est ici la France où elle habite. Peut-être qu'ici, on se dit que c'est loin de l'Afrique du Sud. Pourtant, Zach Ostman, son agression et séquestration à Marseille, révèle quelque chose. Donc là, elle fait référence à l'agression et à la séquestration d'un jeune homme à Marseille, début mars 2017. Donc là aussi, vous pouvez vous renseigner pour les personnes qui n'étaient pas au courant. Alors elle continue en disant qu'elle souhaite donner l'impulsion à d'autres de prendre part à ce combat et avoir des artistes héros modernes à qui s'identifier. Dévoiler une partie de la richesse de la culture LGBTQI, donc lesbienne, gay, bi, transgenre, queer et intersexe, pour A Queer Vision, donc qui est sa série de portraits, c'est aussi permettre à des personnes en questionnement d'identité sexuelle et ou concernant leur genre de pouvoir s'identifier et d'avoir accès à des images mentales, la définition d'une vision. J'ai voulu reprendre le Rainbow Flag, donc le drapeau arc-en-ciel de la communauté LGBT, en faisant des coulures à la bombe agrafées pour montrer ce sang qui a coulé et continue de couler à travers le monde. Donc ce sont ces coulures dont elle parle. Alors je suis obligée de passer un petit peu plus vite pour laisser le temps de parole aux personnes qui sont à la table ronde aujourd'hui. Je voudrais montrer un dernier exemple d'œuvre qui... est conçue pour questionner les représentations du fait colonial, le regard sur les corps noirs, et c'est l'œuvre de Bintou Dembélé, dont on va voir un extrait vidéo. Alors Bintou Dembélé, c'est une pionnière du hip-hop en France, de la danse hip-hop. Elle a adopté cette culture de la rue et de l'image depuis 1985, et elle a créé en 2002 une compagnie de danse contemporaine qui s'appelle Réalité, et qui aborde les thèmes de l'identité et du fait colonial dans les 5 pièces de son répertoire. Depuis 2014, Bintou développe un projet expérimental qui relie des artistes, des chercheurs, des acteurs de terrain, des universitaires et des enseignants, avec pour objectif de créer des passerelles. Alors là, je cite sa présentation de l'œuvre Zadash, qui est à la fois une œuvre de chorégraphie, de danse, où on voit de la danse contemporaine et de la danse hip-hop, et dans laquelle Bintou fait intervenir... Alors, c'est une œuvre... chorégraphique, dans laquelle Bintou danse et qu'elle a chorégraphié, mais c'est aussi un film documentaire dans lequel d'ailleurs on voit Françoise Vergès, où elle a invité des universitaires, des chercheurs, des acteurs à s'exprimer sur justement la question des représentations du fait colonial et du corps noir. Donc je voudrais, parce que je manque de temps, simplement qu'on regarde un extrait de cette vidéo. Un extrait du documentaire Zadash, qui va être lancé depuis la régie.
Cette mise à distance a enfermé l'autre, une fois pour toutes, dans une situation...
Alors, Zadash, vous l'aurez deviné, c'est l'acronyme de Zoo Humain. Alors c'est ce spectacle dont on a vu des extraits, c'est aussi un documentaire de 50 minutes qui a été réalisé par Bintou Dembélé et Enrico Bartolucci, produit par la compagnie de Bintou Dembélé, donc la compagnie Ruralité. On reconnaît, je pense, dans cet extrait, deux figures qui renvoient aux eaux humains, qui renvoient au fait colonial et qui renvoient à l'altérisation et à la déshumanisation. C'est la figure du clown chocolat, hein, Raphaël Padilla, dans la première partie de l'extrait, et la figure de la Vénus hottentote, Satya Bartman, dans la seconde partie, celle où Bintou danse avec une muselière. Voilà. Alors j'aimerais pouvoir vous en dire plus et en montrer plus, mais voilà, je voulais introduire cette table ronde avec ces extraits de trois œuvres de trois artistes récentes qui travaillent... dans une perspective créative, mais où le souci de politisation ou d'attirer l'œil du public sur des questions politiquement problématiques est présent dans la conception des œuvres. Alors, il y a des œuvres qui sont pensées pour politiser les publics et qui sont lues a posteriori comme des œuvres d'art ou des œuvres cinématographiques, c'est ce dont va nous parler Hélène Flackinger, donc qui est historienne du cinéma et de la vidéo, qui est maîtresse de conférences à l'Université Paris 8 et qui est spécialiste des relations entre cinéma, vidéo et féminisme. Il y a un ouvrage d'Hélène qui va sortir bientôt sur le sujet, on l'attend avec impatience. Et elle a conçu avec Nadia Ringard une plateforme éditoriale de films qui s'appelle Bobine Féministe, qui est destinée à faire partager des connaissances sur l'histoire audiovisuelle du mouvement de libération des femmes en France. Alors je ne vais pas trop déflorer ton sujet, je vais te laisser présenter les vidéos féministes en question.
Merci. Ça marche ? Ouais ? Non ? Si, d'accord. Donc merci Stéphanie. Alors je vais essayer juste de mettre les images pour que... ouais. Ce sera plus confortable, certes. Ok. Donc bonjour à toutes et à tous, je suis ravie d'être ici et de revenir effectivement à travers un corpus de vidéos féministes des années 70, un petit peu en arrière dans le temps, à l'époque du mouvement de libération des femmes, et d'essayer de vous proposer une petite balade à travers des vidéos qui se sont déployées, enfin des pratiques féministes en vidéo légère qui se sont déployées donc dans ce contexte particulier. Il me semble que cet exemple va pouvoir quand même nourrir des réflexions pour cette table ronde, parce que ce sont des expérimentations à la fois politiques, techniques et esthétiques, évidemment, et qu'on peut peut-être y voir une forme d'archéologie, même de choses que tu viens d'évoquer par rapport à des pratiques très, très récentes. Depuis, disons, les années 2000, voire surtout 2010, les vidéos militantes des années 70, et en particulier les vidéos féministes, en raison de leur humour et de leur inventivité formelle, sont programmées très régulièrement dans les cinémas, est présentée dans des musées, notamment ici, en l'occurrence au Centre Pompidou, dans le contexte de l'exposition Vidéo Vintage en 2012. Mais si aujourd'hui elles circulent, et au fond elles sont relativement légitimées pour certaines d'entre elles, du moins en termes, je dirais, historiques, esthétiques, culturels, si elles font même l'objet d'une patrimonialisation, et là je fais exprès d'employer le terme de patrimonialisation, en réalité, ce sont des pratiques, ou plutôt des productions, qui à l'époque n'ont pas du tout été considérées comme des œuvres d'art par leurs auteurs, qui d'ailleurs ne se définissaient en aucun cas ainsi. Donc je pense que c'est important déjà d'emblée de le rappeler. Une pionnière de la vidéo légère et féministe telle que Carole Rousseau-Poulos rejetait même avec une grande véhémence le qualificatif d'artiste, et elle distinguait avec soin sa démarche de l'art vidéo. Elle voyait souvent dans l'art vidéo, disait-elle, plutôt un usage de l'outil comme d'un gadget électronique supplémentaire. Elle était assez dure à cet égard. Et si on observe, donc, comme je le disais, ces dernières années, un phénomène, on pourrait dire, d'artification de ces vidéos féministes militantes, d'ailleurs souvent associées à une décontextualisation, voire une dépolitisation des pratiques et des usages, il faut d'emblée rappeler qu'elles étaient avant tout conçues comme des supports de discussion dans une perspective de transformation sociale. Alors je vais essayer d'aller assez vite quand même vers les deux exemples que j'ai retenus pour aujourd'hui, puisque l'idée était de remettre pour cette troisième table ronde aussi un certain nombre d'œuvres au cœur de la discussion. Néanmoins, il faut quand même que je rappelle quelques repères contextualisants. Donc au début des années 70, dans la foulée de mai 68 et des états généraux du cinéma, la vidéo légère va ouvrir la voie à un renouveau de l'expression militante. Et ce qui va compter véritablement pour ces groupes vidéo militantes, donc ceux qui se forment au début des années 70, c'est bien, je le disais, donc une pratique politique et sociale. La vidéo est véritablement envisagée comme un moyen, un nouveau moyen de communication qui va être arrangé aux côtés des tracts et des affiches. Carole et Paul Rousseau-Poulos, qui vont former le premier collectif de vidéos militantes qui s'appelle Video Out, dès 1970, considèrent véritablement la vidéo comme leur contribution personnelle, disons, au mouvement contestataire de l'époque, et ils placent leur combat sur le terrain idéologique. Ils disent vouloir se battre dans le domaine des superstructures et chercher à contribuer finalement, à, et ça ce sont leurs termes, à faire sauter le système par en haut en minant la toiture, c'est-à-dire les superstructures idéologiques. C'est vraiment au début de l'année 70 également qu'apparaît sur la scène publique le mouvement de libération des femmes, donc ce nouveau mouvement féministe qui va se distinguer par le choix de la non-mixité, son caractère informel, sans carte ni adhésion, et son autonomie politique et sociale à l'égard des organisations politiques et syndicales. Dans ce contexte, les féministes, qui sont soucieuses de disposer d'une caméra à soi pour échapper aux images imposées par des modèles hétéropatriarcaux, donc ces féministes vont inaugurer, je le disais, de nouvelles pratiques audiovisuelles, donc en vidéo, telles que Carole Roussopoulos, que l'on voit ici à l'image. Elles vont créer des groupes vidéo construits sur le modèle du MLF, non mixte, informel. Il y a toute une nébuleuse qui se crée avec des noms tels que les Muses s'amusent, les Insoumuses également. Les vidéoteuses, RL Vidéo, ou encore le lézard du péril mauve et la guerrière pamplemousse, ça c'est mon nom préféré. J'ai mis beaucoup de temps à savoir qui se cachait derrière. Et donc, au cours de la décennie, les femmes qui vont s'emparer de la vidéo légère vont être très nombreuses. En fait, elles représentent la moitié des groupes vidéo militants de l'époque, alors que dans le domaine des techniques argentiques, ça il faut le rappeler, au cours de la décennie 70 toujours, il n'y a que 3% de femmes en 69 et à peine 9% à la fin de la décennie 70. Alors, avant de vous montrer les deux exemples choisis, quand même quelques images. Ici, une réunion du collectif vidéo féministe Les Muses s'amusent en 75. On voit debout José Constantin en haut à droite. Enfin, en haut, pardon, à droite. Debout. Ici, Johanna Vider, qui était l'amie d'enfance de Delphine Seyrig, dont on va voir une vidéo tout à l'heure. Donc, dans ce contexte-là, il faut se rappeler finalement ou imaginer que la vidéo est vraiment conçue comme un outil de contre-pouvoir. Il y a cette idée que la vidéo va être un outil d'intervention, mais aussi de réflexion et de création. Grâce à la vidéo, faites votre télé vous-même, on peut lire ça dans la presse de contre-culture, ou ici, en l'occurrence dans le fanzine vidéo Info, ouvrez les yeux et cassez la télé, et là c'est vraiment une référence donc, à la vidéo qui serait en opposition directe à la télévision. Donc c'est vraiment une idée de vidéo guérilla, la vidéo légère comme instrument de libre expression et de contre-information qui va primer dans cette décennie. Dans le contexte féministe spécifiquement, la vidéo va participer aux mobilisations, donc avortement, contraception, viol, occupation, grève, contribuer aussi à faire émerger la parole sur des sujets jusque-là inaudibles, sexualité, lesbianisme, vécu de la grossesse et de l'accouchement, prostitution, travail domestique, et aussi remettre en question les médias hégémoniques qui sont les véhicules privilégiés des discours misogynes. Autrement dit, on peut considérer que s'emparer de la caméra, vidéo légère, dans le contexte féministe, c'est vraiment répondre à une exigence politique de prise de parole et de réappropriation de leur corps par les femmes, par l'image. Et cela accompagne un véritable processus d'auto-émancipation. Les avantages de la vidéo vont être considérables dans ce contexte, puisque c'est un... Par rapport aux techniques argentiques, c'est un moyen technique qui est évidemment moins coûteux. Le coût est relativement moindre une fois qu'on a investi dans la caméra et tout le dispositif qui va avec. Il faut quand même le magnétoscope et au début, il faut aussi le moniteur pour relire spécifiquement ces bandes. Mais c'est relativement peu cher et c'est un média vierge qui n'a pas d'école, qui n'a pas de passé, que les hommes ne se sont pas non plus accaparés, si bien que les féministes... Elle s'en empare justement pour maîtriser l'ensemble du processus de production, de réalisation, de montage. Donc elle contrôle l'ensemble de la chaîne et elles sont à la fois techniciennes et artistes, donc il n'y a pas d'hierarchie et ça c'est un élément extrêmement important. Un exemple maintenant, Les prostituées de Lyon parlent. C'est une vidéo réalisée par Carole Roussopoulos en juin 1975. Ici, vous voyez une photo de Monique Durier de cette mobilisation, donc en juin 1975 à Lyon, des prostituées à l'intérieur de l'église de Saint-Nizier. Les prostituées, à ce moment-là, occupent cette église pour dénoncer le harcèlement policier, fiscal et social qu'elles subissent. Elles sont enfermées dans l'église, sans pouvoir en sortir, sous peine de se faire arrêter par la police. Et le dispositif vidéo va leur permettre de casser les murs, d'exposer leurs revendications à l'extérieur. Les bandes, à l'origine, ne sont pas montées. Elles sont diffusées le jour même sur un moniteur qui est accroché sur le flanc de l'église et face à la caméra de Carole Roussopoulos, parfois dissimulées maladroitement, les prostituées vont témoigner de la manière, finalement à interpeller directement les passants et les passantes. Donc, il va y avoir un énorme attroupement devant l'église, il va y avoir, paraît-il, même des accidents, parce que les gens s'arrêtent, mais pas toujours comme il faut. Et la vidéo va devenir un porte-parole de la revendication des prostituées et créer une véritable dynamique militante sur place. La vidéo va participer réellement à l'action et créer, de fait, un certain nombre d'effets localement, puisque les prostituées vont rester relativement longtemps, plus d'une semaine, à l'intérieur de l'église, alors qu'évidemment, sinon, elles se seraient fait immédiatement arrêter par la police. Donc ça va permettre, évidemment, aussi qu'il y ait un relais dans la presse qui soit davantage important. On va voir maintenant un extrait des prostituées de Lyon Parle. C'est un remontage, entre guillemets, à froid, c'est-à-dire un montage d'un certain nombre d'extraits qui avait été, de choses qui avaient été tournées, de rush, qui avaient été tournées sur place et qui étaient diffusées le jour même.
On va prendre le couvercle après demain et on va l'enlever complètement et tout va sauter. Et puis je crois que nous aurons acculé à en arriver là.
Alors, cette vidéo est tout à fait emblématique, hein, de l'usage qui a pu être fait de cet outil au moment même où il y avait une mobilisation. Donc, ce que permet cet outil vidéo qui est tout juste émergent, c'est vraiment des interventions très rapides, une relecture immédiate ou une retransmission directe de l'image. Et ça favorise évidemment une prise de conscience sur le moment. Alors, je vais vous montrer un deuxième exemple qui est assez emblématique, peut-être connu par certaines et certains déjà, et qui est emblématique de cette pratique vidéo-féministe, notamment par son usage de l'humour et de la provocation, mais en même temps à prendre tout à fait au sérieux, et on aura l'occasion probablement au moment de la discussion peut-être d'en parler. C'est la vidéo Scum Manifesto de Carole Roussopoulos et Delphine Seyrig, qui met en scène une lecture du livre Manifeste de Valérie Solanas, qui est l'un des textes fondateurs du féminisme mondial. Scum, c'est l'acronyme de Society for Cutting Up Men, qui pourrait être traduit donc par Société pour tailler les hommes en pièces ou Société pour émasculer les hommes. Et dans le dispositif vidéo, parce que c'est ce dont il s'agit ici, Delphine Seyrig, vous allez voir, fait la lecture du texte. Carole Roussopoulos le tape à la machine à écrire, appuyant chaque mot, rythmant chaque phrase. Et en contrepoint, on découvre des fragments du journal télévisé où, et là je cite les réalisatrices, on ne voit que des mecs qui font la guerre, des cuirassés. Donc l'intention des réalisatrices, c'était d'instaurer un rapport de force, notamment avec les éditeurs, de manière à ce que le pamphlet soit réédité, parce qu'en France, il était déjà épuisé, d'ailleurs à l'époque aussi, aux États-Unis, il l'était également. Donc maintenant, un extrait de Scum Manifesto.
Scum Manifesto.
Confirmer que l'Union soviétique faisait un effort particulier en ce qui concernait son armement et sa défense, cela confirme donc...
Alors justement, la vidéo se poursuit, elle dure 28 minutes, c'est le temps d'un journal télévisé qui en fait évidemment est préparé quand même en amont. Il y a un montage des images qui défilent sur l'écran à l'arrière qui a été préparé en amont, mais On ne voit que des images donc de guerre, des images de soldats, de porte-avions, et quelques images de femmes en lutte contre les violences guerrières des hommes, en l'occurrence une grande manifestation de femmes à Belfast. Et il est question de la course, à l'armement, des deux Corées, des affrontements au Liban, de la répression sanglante des militants de l'armée du peuple en Argentine, etc. Et donc, cette mise en perspective du texte de Valérie Solanas dans cette vidéo des deux réalisatrices insiste bien sur l'actualisation possible de ce texte, on pourrait dire, en mettant en parallèle l'idée de tirer un coup donc, et de faire la guerre. Et la violence du manifeste, l'agressivité des mots de ce texte littéraire, par ailleurs extrêmement beau, résonne comme une réponse à la violence bien réelle et insupportable de l'oppression subie par les femmes. Donc à la rhétorique des dominants répond une autre rhétorique qui est celle du combat et qui est menée en vidéo. Et la vidéo est vraiment une riposte à la télévision simultanément. Donc je vais peut-être m'arrêter là, on aura l'occasion peut-être tout à l'heure aussi de revenir sur les conditions de diffusion de ces vidéos qui sont évidemment un moment majeur dans la politisation possible des publics puisque c'est à ce moment-là finalement que tout se joue d'une certaine manière après la projection, la discussion.
Puis on pourra revenir aussi sur le changement de statut de ces œuvres hein, qui de tract politique deviennent images d'archives et œuvres d'art alors que c'était pas leur vocation première. C'était aussi pour ça qu'on voulait montrer. Alors je vais laisser la parole maintenant à Jean-Baptiste Fou qui est ici parce qu'il grâce à Bintou Dembélé, en fait, il faut quand même le souligner, c'est le fil rouge entre les tables rondes. Tout à l'heure, on avait Françoise Vergès en table ronde, on la voit dans la vidéo du film Zadage de Bintou Dembélé. Et par ailleurs, Bintou et Jean-Baptiste se connaissent et ont eu l'occasion de discuter ensemble de la dimension politique des œuvres d'art. Donc on est très heureuse d'avoir Jean-Baptiste à cette table. Donc Jean-Baptiste est comédien, auteur, metteur en scène, franco-cambodgien. Il a démarré sa carrière artistique au Cambodge et aux États-Unis dans des comédies musicales. En France, il se produit notamment au Théâtre du Châtelet, dans The King and I. Pour le cinéma et la télévision, il a travaillé sous la direction de Rithi Pan. Je prononce bien ?
Presque. Allô ? Rithi Pan, okay. Que bon, voilà, vous connaissez peut-être.
Eric Zonka, Jinka Renard ou encore Sarah Forestier. Donc Jean-Baptiste, tu es aussi directeur artistique de ta propre compagnie et tu produis des pièces dont tu es auteur et metteur en scène et qui se jouent entre la France et le Cambodge. Et c'est le cas de la pièce de théâtre Cambodge Me Voici, dont on va voir un extrait, qui a été jouée à Paris en 2011 en français. Alors l'extrait qu'on verra est en français, mais la pièce a aussi été recréée en version Khmer en résidence à l'Institut français du Cambodge en 2012. Alors peut-être je te laisse présenter la pièce toi-même, ouais. Qui au départ n'était pas une pièce pensée pour la politisation des publics, sauf si je fais erreur.
Alors, pour donner un petit peu l'historique de ce spectacle, en fait, avant d'écrire, avant d'être auteur et metteur en scène, j'étais comédien. Donc moi, j'ai démarré ma carrière en 2008 en tant que comédien, chanteur dans des comédies musicales au Cambodge et aux États-Unis. Après, je suis revenu en France en 2009. Et en fait, quand je suis revenu ici, ça a été un peu une douche froide. Dans ce que j'ai constaté dans le paysage artistique, notamment pour des personnes qui me ressemblent, c'est-à-dire avec un faciès asiatique. Parce que systématiquement, on me renvoyait à un espèce d'imaginaire comme étant l'homme asiatique, le clandestin, le cuisinier illégal, le sans-papier ou le karatéka, ou, enfin ce genre de choses, qui étaient complètement éloignées de qui j'étais, et en plus voilà, c'était une espèce de stéréotype un petit peu récurrent des rôles qu'on me proposait quand je suis arrivé en France. Et en fait, l'histoire en fait, de cette pièce, pourquoi j'ai à un moment décidé de prendre la plume et de m'exprimer, c'était déjà par rapport à une absence de ces narrations, de ces imaginaires en France où les Asiatiques ne sont pas représentés ou très peu, et lorsque c'est le cas, systématiquement, presque, c'est de façon déformée ou un petit peu fantasmée. Et Donc moi, j'avais envie de me réapproprier une parole, et d'autant plus sur la question du Cambodge. C'est un pays avec lequel j'ai un rapport très particulier. Mes parents sont du Cambodge. Moi, je suis né en France, mais c'est un pays que j'ai découvert assez tard. Et puis ensuite, il s'est créé toute une histoire avec ce pays-là. Et donc, tout ce cheminement identitaire, j'avais envie de lui donner forme à travers une pièce de théâtre. Et aussi parce que quand j'ai commencé ma carrière au Cambodge et que j'ai joué dans plusieurs œuvres qui parlaient de cette histoire-là, et puis vous connaissez certainement l'histoire tragique du Cambodge avec le génocide qu'il y a eu entre 75 et 79 avec les Khmers Rouges, le traitement qui en a été fait d'un point de vue artistique, disons ça comme ça, et en plus j'étais intervenu ici en 2011 pour une autre conférence qui s'appelait « Du documentaire à la fiction ». Il y avait le dessinateur Serra Eritipan, enfin voilà, qui ne pouvait pas venir, mais qui était représenté par quelqu'un d'autre, où on parlait justement de comment créer à travers, enfin à partir d'un événement aussi lourd. Et mis à part les exemples que je vous ai cités tout à l'heure, c'est vrai que la plupart du temps, lorsqu'on parlait du Cambodge et qu'on en parlait presque de façon un peu fictionnalisée, c'était toujours des choses assez mélodramatiques, toujours très binaires, les gentils, les méchants. Et puis moi, j'ai pu interpréter certains de ces rôles-là. Et c'est vrai que pour moi, les choses sont beaucoup, beaucoup plus complexes que ça. Et la majorité du temps, en plus, les artistes ou les personnes qui s'expriment sur ces questions ne sont pas cambodgiens. C'est des personnes qui, à un moment, ont été touchées par cette histoire et ont voulu s'approprier, c'est peut-être pas le bon terme, mais voilà, ont envie de raconter quelque chose sur cette histoire-là avec leur bagage. Et moi, je trouvais qu'il y avait un biais, et je me suis dit, ben voilà, au lieu de me plaindre et de me dire « ça me plaît pas, ça me convient pas, ça c'est mal dit, on n'est pas assez présent », j'ai eu envie de prendre moi-même la parole, de m'exprimer, tout en n'ayant jamais écrit auparavant, tout en n'ayant jamais monté de spectacle auparavant. C'était ma première création et ça m'a complètement dépassé. Donc là, on va voir un extrait et puis je vous raconterai la suite tout à l'heure. Et l'extrait est en cambodgien, sous-titré en français. C'est pas grave.
Merci. Peut-être que tu peux nous dire quelques mots sur la réception de l'œuvre, qui est très intéressante.
Oui, alors peut-être je veux situer un peu l'histoire, qui sont les personnages, pour que vous compreniez mieux la situation. En fait, ça se passe dans le consulat du Cambodge à Paris. Et donc on a quatre femmes qui sont dans la salle d'attente, qui ne se connaissent pas et qui, le temps d'une démarche, se mettent à parler un petit peu d'elles et de leur histoire. Donc on a la plus jeune, qu'on voit au début, qui est une franco-cambodgienne, qui n'a jamais mis les pieds au Cambodge et donc qui va solliciter un visa pour y aller la première fois. On a ensuite la jeune femme au milieu qui vient se marier avec un Français qu'elle a rencontré au Cambodge. Il y a la femme avec son truc léopard qui est une cambodgienne qui a vécu les événements du génocide et qui est maintenant réfugiée en France et qui va retourner au Cambodge pour adopter une fille et qui fait les démarches. Et ensuite la personne la plus âgée qui était partie avant la chute de Phnom Penh et qui n'est jamais retourné dans son pays pendant presque 40 ans et qui retourne pour la première fois parce que sa mère est mourante et il faut qu'elle fasse la démarche pour y retourner. Et donc en fait, moi ce qui était intéressant à travers ces quatre personnages et leurs rencontres, c'était d'adresser toutes ces questions sur l'identité finalement, de comment on fait nous aujourd'hui avec toutes ces questions-là d'un héritage qui est assez lourd, avec ces questions aussi de l'exil, des deux pays, etc. Et lorsque j'ai écrit cette pièce et que ça a été joué à Paris pour la première fois en 2011, il y a quelque chose d'assez surprenant qui s'est passé. C'est que finalement, on a eu salle comble tous les soirs. On a même joué à guichet fermé. Il y a eu même des représentations supplémentaires parce que il y a eu un écho auprès du public, notamment du public cambodgien ou d'origine cambodgienne ou d'origine asiatique en France, qui, pour la première fois, était représenté. représentés sur une scène de théâtre et puis représentés aussi dans leurs histoires et peut-être de façon, et c'est des mots que j'ai souvent entendus, peut-être plus juste et plus authentique que ce qu'on a pu voir jusqu'à maintenant. Et c'est vrai que c'était extrêmement touchant pour moi de voir toutes ces personnes-là qui, en plus, pour la plupart, venaient au théâtre pour la première fois. Parfois venaient et revenaient aussi en famille pour justement peut-être une façon d'adresser des choses qui n'adressent pas ou qui ne sont pas adressées naturellement. Enfin voilà, c'est une histoire qui est quand même assez lourde. Et en plus, il y a ce trait culturel asiatique qui fait qu'on n'est pas forcément les personnes les plus expressives. Donc voilà, il y a tout ça. Et qui fait qu'à un moment, le public, en tout cas en France, a réagi en venant en nombre, en sollicitant le spectacle. Ce qui fait qu'en plus, en 2012, il a été reprogrammé dans plusieurs salles en France. On a fait une tournée dans plusieurs villes. Et jusqu'à ce que, en fait, l'Institut français au Cambodge décide de nous programmer. Donc, c'est ce que vous avez vu. C'était la recréation du spectacle, en fait. En 2012, l'Institut français nous a accueillis en résidence pendant 2 mois et nous a permis, à moi et avec mon équipe artistique, la scénographe, costumière et éclairagiste, de partir là-bas en résidence et de recréer le spectacle en traduisant le texte, en embauchant une nouvelle distribution sur place et en revoyant toute la mise en scène. Et aussi d'avoir eu des moyens qu'on n'avait pas eu lorsque moi j'ai démarré, on a fait ça avec des bouts de ficelle. Mais voilà, en fait, c'était nous permettre d'être aussi visibles et de professionnaliser aussi une démarche. Et ce qui est intéressant, lorsqu'on parle de politiser les publics, c'est l'écho qu'il y a eu aussi au Cambodge. Parce que lorsque la pièce a été jouée en 2012, alors le contexte à l'Institut français, donc c'était il y a quelques années, donc ils avaient plus de budget que maintenant, donc on a pu faire ça. Mais c'est vrai que c'est toujours des problématiques où on ne peut pas jouer plusieurs fois. Donc on n'a fait que 2 représentations. Il y a eu quelques centaines de personnes qui sont venues. Les retours ont été extrêmement positifs. Mais voilà, c'était très limité dans le temps. Mais on a quand même eu cette captation qui est assez bien faite. Et une des comédiennes, celle que vous voyez en rouge, récemment, il y a quelques mois, en fait, a posté un extrait. C'est le début de l'extrait que vous voyez là. Et puis après, il y a toute une suite, à peu près 10-15 minutes. Elle a mis ça sur Internet en montrant son travail, parce que voilà, elle est comédienne, elle est danseuse, elle fait plusieurs choses, et elle a posté cet extrait. Et ce qui était extrêmement intéressant, c'est qu'il y a eu un relais assez massif. Ça a été partagé presque, des milliers de fois, ça a été vu presque 50 000 fois par un public cambodgien qui découvrait pour la première fois en fait cette œuvre-là. Et notamment énormément de jeunes. Il faut aussi savoir que le Cambodge est un pays assez jeune par son histoire récente. Et des personnes qui était presque émerveillé par le fait de ce que ça racontait, c'est-à-dire le propos, le fond. Il faut savoir qu'au Cambodge, même si c'est une démocratie, qu'il n'y a pas de censure réelle, en tout cas au niveau étatique, il y a quand même quelque chose de très fort dans la liberté d'expression. Et là, c'était presque la première fois qu'ils entendaient des thèmes. Là, bon, l'extrait que vous avez vu est un peu moins politique que ce qui suit derrière. Mais en tout cas, voilà, c'était des choses dites de façon très frontale, adressées, avec une remise en question aussi assez dure de ce qui peut se passer dans le Cambodge contemporain, qui n'est pas forcément, moi en tant qu'auteur, mon idée. Alors c'est là aussi où la question est, est-ce que mon œuvre était là pour politiser le public ou pas? Moi je ne considère pas que c'était le cas, parce que quand j'ai écrit cette pièce-là, c'était pas à charge contre qui que ce soit, c'était pas pour dénoncer les dérives, la corruption ou quoi que ce soit, c'était simplement pour questionner une démarche qui est la mienne sur l'identité et puis aussi sur l'état d'un pays qui me pose beaucoup de questions. Et lorsque ces questions-là ont été posées, c'est vrai, avec un regard qui est le mien, qui est assez incisif, ça a eu une répercussion assez étrange. Il y a eu beaucoup de relais, il y a eu beaucoup de partages, il y a énormément de gens qui ont sollicité l'œuvre en disant « mais quand est-ce que ça se rejoue ? Il faut absolument qu'on voit, qu'on puisse entendre cette parole-là qu'on n'entend pas. » Et ce qui est aussi très intéressant, et c'est pour la petite anecdote, lorsqu'on a monté ce spectacle-là en 2012, et lorsque j'ai choisi les comédiennes et que j'aurais donné le texte, toutes m'ont dit, est-ce que ça a été validé? Est-ce qu'on peut jouer ça? Est-ce qu'on peut dire ça? C'est ce qui est incroyable, parce que finalement, oui, il y a un ministère de la Culture qui, potentiellement, peut émettre un avis ou pas, mais elles avaient tellement peur, enfin, c'était presque une autocensure de dire, mais on peut peut-être s'attirer des problèmes en jouant, en disant ça, donc... Comment on fait ? Est-ce que est-ce qu'on a un feu vert ou pas, etc. Et là, je remercie beaucoup l'Institut français parce qu'ils m'ont complètement soutenu sur le dans la démarche. Ils m'ont dit, écoute, on préfère pas prendre le risque, on va pas le soumettre au ministère de la Culture. On le prend en notre nom, on produit tout entièrement et puis on verra si à la fin il y a une crise diplomatique ou pas. Il n'y en a pas eu. Mais c'est intéressant de voir aussi à quel point, en fait, dans les esprits, on s'imagine qu'on ne peut pas dire certaines choses, qu'on va nous tomber dessus, etc. Et ce qui est intéressant aussi, je pense que c'est peut-être 5 ans plus tard, les jeunes se posent moins ces questions. Aujourd'hui, au Cambodge, il y a des manifestations. Lorsqu'il y a des opposants politiques ou des journalistes qui sont arrêtés ou qui disparaissent, les gens descendent dans la rue. Manifeste, ce qui n'était pas le cas il y a 5 ans. Donc je crois qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer et puis peut-être, j'espère, les œuvres peuvent y contribuer.
Merci. Alors on aimerait ouvrir les questions à la salle. Avant de se faire, j'ai une question à Jean-Baptiste et une à Hélène. La question à Jean-Baptiste, c'est que quand on a discuté ensemble avant la table ronde, tu me disais que tu n'avais pas en tête une volonté de politisation des publics en créant cette pièce, mais qu'elle a eu cet effet-là. Et en t'écoutant parler, je me demandais si finalement, une œuvre qui est quelque part identitaire, est-ce qu'elle n'est pas politique de façon inhérente ? Quand ça s'inscrit dans un questionnement des rapports de la minorité à l'hégémonie, des pays qui ont pu être colonisés par la France, ou enfin, est-ce qu'une œuvre identitaire, quand elle émane de quelqu'un qui est d'une minorité symbolique ou numérique, est-ce qu'elle n'est pas politique en soi ?
Moi, je le mets sur 2 plans. Je pense que ma démarche est politique. En tout cas, le fait de prendre la parole et d'interroger des choses, c'est pour moi un acte politique. C'est de questionner, de bousculer, un petit peu de remettre en question. Et ça, pour moi, c'est évidemment éminemment politique. Mais après, ce n'est pas mon intention. C'est-à-dire, une fois que l'œuvre est créée, elle ne m'appartient plus. Et ce n'est pas moi de décider comment le public doit réagir et comment il doit la réceptionner et qu'est-ce qu'il doit en faire. Et ça, ça lui appartient et c'est ça qui moi, je trouve absolument fantastique dans cette pièce-là. En tout cas, c'est que l'appropriation qu'en a été faite a été une prise de conscience déjà de certaines choses qui ne sont pas adressées. Et puis, peut-être l'action d'après, et je ne sais pas ce que ça sera, mais ça peut être le fait, par exemple, de se rassembler, de faire des actions autres qui peuvent être artistiques ou pas. Mais en tout cas, c'était pas ma volonté première, mais je crois que derrière, il y a quelque chose qui m'échappe, et tant mieux. Moi, je dirais, en tant qu'artiste, on n'est pas là pour dicter ce que les gens doivent faire avec ça, et heureusement d'ailleurs. Et puis je suis même presque content que finalement ça nous appartienne plus.
Merci. Et ma question à Hélène maintenant, avant de passer aux questions du public, à l'inverse de ce qu'on vient de voir avec la pièce de théâtre Cambodge, me voici, les vidéos féministes des années 70 dont tu as parlé, elles ne sont pas pensées comme des œuvres d'art, et elles sont pensées vraiment dans une idée de susciter une réaction du public. Donc on n'est pas en train de produire une œuvre dont on va voir, dont on n'anticipe pas spécialement la réception. Là, on est vraiment, on veut provoquer telle réaction précise chez le public. Et a posteriori, on se rend compte finalement que 40 ans plus tard, ces œuvres, elles sont perçues comme des archives, comme des œuvres d'art. Est-ce que ce n'est pas une dépolitisation ?
Oui, tout à fait. Y a une ambiguïté dans la recirculation de ces vidéos militantes féministes, et pas que les vidéos féministes de cette période, aussi les autres, même si celles-ci sont tout à fait emblématiques, parce que tout simplement elles circulent plus, parce qu'elles sont, à l'image du mouvement de libération des femmes, beaucoup plus drôles et inventives que d'autres courants militants de la période, on va dire. Donc c'est aussi pour ça qu'elles circulent davantage. Et c'est clair que leur recirculation aujourd'hui est très rarement accompagnée d'une contextualisation. Et ça, c'est un vrai problème. Une contextualisation à l'égard, évidemment, de ce qu'était le mouvement de libération des femmes, à l'égard de ce qu'étaient, en l'occurrence, les techniques vidéo légères, de ce qui était possible ou pas en termes de production, en termes de montage, puisque le montage se met en place très lentement, et évidemment, en termes de diffusion à l'époque. Puisque aujourd'hui, on va voir, si c'est dans le contexte du cinéma, ces vidéos en salle, sur un grand écran, c'était évidemment pas les conditions de diffusion de l'époque. C'était diffusé dans le cadre de réunions festives et militantes, dans le cadre de comités d'entreprise, dans des universités, des maisons des jeunes de la culture, des maisons de la culture, et c'était diffusé surtout sur des petits moniteurs de télé, enfin équivalent de télé, quoi, équivalent à une télé. Et moi, ce qui m'avait frappé, justement, désolé, en plus c'est enregistré, c'était dans ces murs-là, mais le fait que, en l'occurrence, Mazo et Miso vont en bateau aient été montrés dans le cadre de l'exposition vidéo vintage, dans un salon vintage, à côté, comme si, finalement, à l'époque, le public voyait ces vidéos à la télé, ça pouvait donner une impression de contresens assez fort, puisque précisément ces vidéos ne sont jamais passées à la télévision pour des raisons politiques qui se réfugiaient souvent derrière des arguments techniques. C'était trop amateur, le signal n'était pas suffisant pour que ce soit encaissé par les télés, etc. Et donc, évidemment, c'est essentiel quand on s'intéresse à ces vidéos de bien comprendre qu'il y a tout un dispositif qui va de la production donc jusqu'à la diffusion, qui est pensé, comme tu le disais, vraiment orienté vers l'intervention finalement. Et donc dans un premier temps, c'était diffusé selon la méthode qu'on appelait la méthode de la vidéo brouette. Ça dit tout ce que c'est comment dire, l'idée évidemment est contenue dans ce mot valise, c'est-à-dire qu'il fallait déplacer le matériel de lecture, le magnétoscope et le moniteur en même temps que la bande. Puisque à l'époque, on ne pouvait pas précisément donc voir ces vidéos dans des salles. Il n'y avait pas de vidéoprojecteur comme il en existe aujourd'hui. Et donc, c'était vraiment des coups d'épingle, comme le dit Jean-Paul Fargier. C'est-à-dire que c'était des projections devant des publics de manière quantitative très limitée, 30, 40 personnes, parfois un peu plus quand même, parce que même si on ne voyait pas bien l'image, le son était souvent fort et le son primait dans ces vidéos militantes. La parole primait, en fait, sur l'image noir et blanc que vous avez vue. Et finalement, progressivement, il va y avoir quand même une organisation qui va se mettre en place avec la constitution d'un collectif de distribution qui s'appelait Mon Œil, le nom avait été trouvé par Delphine Seyrig, et là il y aura un petit peu plus de diffusion. Mais au début, c'est carrément sur des marchés en particulier que Carole Roussopoulos diffuse ses vidéos. Elle va sur les marchés avec Brigitte Fontaine et Julie Dassin, Brigitte Fontaine étant déjà assez connue, donc elle chante, donc les gens arrivent parce qu'ils la reconnaissent quand même, et puis derrière, hop, elle passe la vidéo. Et à ce moment-là, les gens restent. Et pourquoi ils restent ? Parce qu'il y a quand même un phénomène d'attraction aussi technologique, puisqu'on est évidemment dans un contexte où on n'est pas noyé, entre guillemets, par les images. On n'est pas dans cette multiplication des images numériques, des écrans numériques dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Donc en réalité, le dispositif technologique a un effet d'attraction qui est aussi positif et qui est complètement instrumentalisé par les militants et les militantes féministes, en l'occurrence, dans la période. Donc oui, contextualisation absolument nécessaire quand aujourd'hui on voit ces bandes vidéo sous peine de très violents contresens politiques, notamment.
Merci. Alors, je l'avais mis dans le PowerPoint d'introduction, mais je ne l'ai pas dit à l'oral. J'ai parlé d'une jeune artiste peintre qui s'appelle Pauline Ngwala. Elle est aujourd'hui exposée. On peut la voir en exposition à Paris, on peut voir son œuvre. Alors ça s'appelle Berkeley Books, et c'est rue Casimir de la Vigne, dans le 6e arrondissement. Voilà. Maintenant que cette annonce est faite, bon, j'espère que vous avez des questions.
Oui, bonjour. J'avais une question pour vous, Jean-Baptiste Fou. Pourquoi avoir mis en scène quatre femmes et pas deux femmes et deux hommes ? Enfin, voilà, juste.
En fait, il y a plusieurs raisons. La première, elle assez primaire, c'est parce que souvent, les acteurs, lorsqu'ils écrivent, c'est parce qu'ils n'ont pas des rôles. Enfin, voilà, c'est une pénurie de rôles. Donc, on dit, on va écrire et mettre en scène parce qu'on n'a pas les rôles qu'on voudrait. et on va écrire pour soi. Moi, je voulais absolument éviter ça. Je voulais prendre le plus de distance possible et voilà, me dire, dans aucun cas, je pourrais jouer dans cette pièce. Donc, je veux que ce soit incarné par des femmes. Donc, ça, c'était une des raisons. Et puis aussi, c'était pour l'exercice de projection, de rentrée. Je me suis dit, voilà, j'ai envie de faire une fiction et de parler de moi, mais sans parler de moi. Et donc, l'exercice était... Je m'étais ajouté un peu des couches de difficultés. En plus, c'est quatre femmes de générations différentes. Certaines qui sont nées en France, d'autres au Cambodge. Certaines qui ont vécu le génocide, d'autres pas. Donc, voilà, il y avait tout ça. Et puis aussi, une dernière raison, c'est... dans mon entourage et dans ma famille, celles qui parlaient le plus étaient les femmes. En fait, la transmission des histoires se faisait souvent par la mère, par aussi des tantes, etc., ce que j'entendais, et puis les hommes ne disaient rien.
Bonsoir. Donc, j'ai regardé avec attention toutes les œuvres qui ont été projetées. Mais le problème, c'est que moi, je suis amateur d'art en général. Mais dans le spectacle vivant, bon, il y a le tarmac qui diffuse des pièces de théâtre comme vous le faites, Jean-Baptiste Fou, un peu comme ça, c'est un peu exotique. Mais je ne vois pas je ne vois jamais de pièces de théâtre vraiment subversives où ceux qui sont de la minorité en France arrivent à décrire leur véritable ressenti par rapport à leur appartenance tant africaine que française. Je ne vois jamais rien. Je n'ai jamais rien vu de représentatif, en fait. Donc c'est parce que moi je vais assister à des concerts de musique contemporaine ici. Et en fait, quand je regarde le public qui vient là, c'est pas des gens comme moi, quoi. Et donc je me dis, est-ce qu'on a déjà tout fait en art? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses qui vont être réalisées et qui vont changer la société française? Voilà, quoi.
C'était la table ronde d'avance, alors. Peut-être qu'ils l'ont abordé, justement. Enfin, vous l'avez sûrement abordé. Je crois qu'effectivement, en France, il y a... Alors, je pense qu'on pourrait faire tout un débat, toute une journée sur cette question-là. Mais il y a peut-être, oui, une difficulté à avoir des narrations différentes. Et l'action, par exemple, de Françoise Vergès avec Décoloniser les arts, et celle-ci, de pouvoir amener d'autres histoires, d'autres récits, d'autres narrations, d'autres imaginaires sur les plateaux français, notamment du spectacle vivant. Le tarmac, c'est assez particulier. Donc, effectivement, je ne sais plus quel est leur slogan, mais le tarmac a la particularité de ne produire que des compagnies étrangères, francophones étrangères. Donc moi, compagnie française, tarmac non. Voilà, déjà. Et puis ensuite, c'est vrai qu'il y a aussi une difficulté en tant que personne d'une minorité qui parle de son histoire, parce que tout de suite on dit c'est communautaire. Voilà, vos histoires, ça c'est un truc qui est pour vous, entre vous, donc on n'en veut pas. Comme si, en fait... l'universel ne nous concernait pas. En fait, comme si nos histoires, lorsqu'on les raconte, on prend la parole pour les raconter, et ben ça devenait quelque chose de micro et qui nous concernait que nous. Voilà, je pense qu'il y a aussi une difficulté dans certains imaginaires, en tout cas en France, dans des programmateurs ou autres, de comprendre que lorsqu'on parle de notre place, on parle aussi de notre place en tant qu'humain. Voilà. Et il y a des choses qui sont en train de changer lentement, il y a des actions qui sont menées, mais tout n'a pas été dit, ça c'est sûr, c'est évident. Je pense que tout n'a pas été créé, il y a encore énormément de choses à dire. Et puis en tout cas, bon, voilà, nous on essaie, moi et d'autres, parce qu'on est, il y a Bintou, enfin, il y a aussi tout un certain nombre de personnes qui essayons de pousser aussi pour simplement exister.
Puis il y a la question des programmateurs, parce que... Je connais des gens qui programment dans des salles, même parfois alternatives, et parfois je leur parle d'artistes que je connais, en danse, ou des auteurs de théâtre, et je leur dis, tiens, ce serait bien que tu programmes tel artiste, et puis ça tombe à plat. Si ça peut pas se raccrocher à une narration d'un style en vogue dans le moment X où j'en parle, donc je me dis, si ça tombe à plat quand c'est moi qui en parle, ça... alors que je connais le programmateur ou la programmatrice, que je connais sa salle et que je me dis que ça rentrerait quand même bien par rapport au public de la salle en question, et qu'en plus c'est une salle alternative, je me dis, bon bah, le nombre d'œuvres qui sont pas programmées, voilà.
Oui, merci. Bonsoir. Merci beaucoup. C'est une question pour Hélène Flécanger, parce que j'aime beaucoup et j'apprécie beaucoup le travail de Carole Roussopoulos. Et je me posais une question, et c'est une question vraiment sincère qui émerge maintenant, et surtout à la suite aussi de la discussion tout à l'heure. Et la question est la suivante. Est-ce qu'il n'y a pas, par moment, aussi une mise sous tutelle de la voix des minorités? Et je pense particulièrement lorsque Carole Roussopoulos se fait porte-parole, en quelque sorte, de la voix des prostituées, mais je pense aussi à son travail avec les ouvrières de l'IP. Et donc, je me dis, en fait, schématise outrance, hein, mais pour illustrer mon propos, mais en fait, en quelque sorte, ces voix minoritaires des classes populaires ou des prostituées ne peuvent advenir que par la tutelle, en quelque sorte, d'une sorte de féministe sûr, et je dirais qui n'appartiennent pas à ces groupes sociaux et qui sont peut-être même, Carole Roussopoulos n'était certainement pas une prolétaire. Donc voilà, est-ce qu'il n'y a pas, et ça ne veut pas, ça ne valide pas pour autant la portée politique de ces actions, mais voilà, j'ai l'impression qu'il y a par moment, et on l'a vu tout à l'heure aussi dans le débat, il n'y a pas un moment mis sous tutelle déjà en fait.
Merci pour votre question qui est très importante, très intéressante aussi, parce qu'elle me permet en plus de mettre en évidence le rôle, allez, je vais mettre les pieds dans le plat, néfaste, hein, que nous, on joue aussi, historiens, historiennes du cinéma travaillant sur ces questions, rentrant dans un processus paradoxal, aussi d'autorisation, entre guillemets, de pratiques qui, à l'époque, étaient totalement... en tout cas davantage collective que nous ne parvenons aujourd'hui à les restituer. Quand on prend les textes de l'époque, même, mais quand même des textes, enfin des témoignages de Carole Roussopoulos écrits donc dans des journaux tels que Vidéo Info dont je parlais tout à l'heure, elle dit très clairement Video Out, c'est un groupe à géométrie variable, elle le dit dans ses propres termes, mais en gros avec à chaque fois un groupe qui peut atteindre plusieurs dizaines de personnes, qui est le groupe qui est engagé dans un combat à un moment qui va être restitué donc en vidéo et qui ensuite va accompagner la diffusion de cette vidéo. Autrement dit, je dirais que ce qui aujourd'hui est présenté comme appartenant à la filmographie de Carole Roussopoulos, auteur ayant droit, enfin, même si après ce sont donc les héritiers qui sont les ayants droit, après la disparition de la personne. En l'occurrence, c'est vrai que ce sont des vidéos qui ont été produites dans des conditions, pour les années 70, très diverses, avec des collectifs dont les membres sont totalement anonymisés et n'avaient à l'époque, par ailleurs, eux-mêmes, elles-mêmes, pas de revendications justement artistiques et une démarche qui était vraiment dans un collectif militant. Mais reconstituer cette histoire, elle est extrêmement difficile. Dans certains cas, par exemple, alors là, c'est quand même plus compliqué, par exemple, pour les prostituées de Lyon Parle, c'est vrai que c'est la démarche de Carole d'aller effectivement à Lyon, mais au moment du remontage, et c'est au moment du remontage que ça s'opère, donc l'extrait qu'on a montré, c'est le produit d'un remontage de Rush qui était tourné et qui était validé par les prostituées elles-mêmes, donc elles contrôlaient tout le processus au moment de l'action vidéo elle-même. Par contre, le montage qui reste aujourd'hui et dont j'ai montré un extrait, effectivement, il est le produit d'un choix au montage de Carole Roussopoulos. Et là, en l'occurrence, c'était vraiment elle essentiellement qui avait signé. Néanmoins, et là encore, on en revient aux questions de diffusion. Donc, il faut en fait remettre du collectif partout, mais pas du collectif essentialisé, c'est-à-dire voir comment il fonctionnait. Et c'est très compliqué à analyser, mais quand même, la diffusion, elle va être encore très importante. Et en l'occurrence, les prostituées de Lyon Parle, toujours cet exemple, a été diffusée exceptionnellement dans une salle de cinéma qui était l'Olympique Entrepôt, qui était tenue par Frédéric Mitterrand. Et c'était les prostituées elles-mêmes, très mobilisées en 75, juste avant les états généraux de la prostitution, qui ont accompagné toutes les projections. Bon, quelques personnes sont venues. En plus, Chantal Akerman est venue accompagner beaucoup les projections, Nadia Ringard et d'autres. Mais là, c'était vraiment repris totalement aussi en main et en charge par les prostituées elles-mêmes. D'où toujours l'importance de bien voir tout l'ensemble du processus à l'époque et effectivement ne pas être aujourd'hui dans une position d'autorisation à laquelle on contribue vraiment, franchement, en tant qu'historien et historienne du cinéma, malheureusement, donc si vous me permettez de le dire.
Eh bien, s'il n'y a pas plus de questions, il ne faut vraiment pas être timide. Hein. Eh bien, il me reste à remercier très chaleureusement les deux intervenants et la modératrice de cette table ronde. Voilà, et de remercier l'ensemble des intervenants d'aujourd'hui pour ces trois tables rondes très riches. De remercier bien entendu Maxime Servul, qui était le conseiller scientifique de tout le cycle que vient clore cette journée aujourd'hui, donc ceci 40 ans changés de culture, de 5 tables rondes et cette journée d'études. Vous pourrez retrouver l'ensemble des tables rondes ainsi que celle de la deuxième de cet après-midi sur la Web TV, les podcasts de l'ensemble des tables rondes sur la Web TV aussi, grâce à nos régisseurs que je remercie. Et donc, je vous invite après à venir retrouver l'ensemble des ouvrages des personnes qui étaient là aujourd'hui à la bibliothèque, à la BPI. Voilà, encore un merci très chaleureux à tous pour la qualité des débats auxquels nous avons assisté aujourd'hui. Merci.